Radio Okapi. Écho des développements. Bienvenue dans Écho du développement, votre magazine de promotion des questions de l'environnement et développement durable de Radio Okapi qui s'intéresse aujourd'hui au mémorandum de la dynamique poulet. C'est un des autres acteurs de la société civile qui n'est pas d'accord avec les appels d'offres sur la vente aux enchères des blocs pétroliers et gaziers émis par le gouvernement congolais depuis le 28 juillet dernier. Tati Mapoukou est à la présentation de cette émission. Jean-Marc Matouaki supervise et coordonne ce magazine et Sylvain Baogouere est à la prise de son. Toute l'équipe vous souhaite une très bonne condition d'écoute des codes de développement.
Radio Okapi opère quelques améliorations sur sa grille de programmes à partir du lundi 5 septembre 2022.
Désormais, vous suivrez, en plus de l'invité du jour en français, les invités du jour en swahili et lingala le matin et le soir. L'émission Parole aux auditeurs passera désormais à 9h05, heure de Kinshasa, avec deux rediffusions à 13h05 et 21h. Nous ferons aussi tous les jours les points sur la situation des marchés urbains en lingala.
Les magazines thématiques passeront du lundi au vendredi à 14h05 et 20h, heure de Kinshasa.
Et la rétrospective de l'actualité de la semaine interviendra tous les week-ends matins. Beaucoup de musique aussi pour vous détendre.
20 ans après sa création, Radio Okapi se rapproche davantage de ses auditeurs et internautes pour mieux les servir. Radio Okapi, c'est vous.
Merci de votre fidélité à Radio Okapi, la fréquence de la paix. Le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, a lancé officiellement 30 appels d'offres, dont 27 pour des blocs pétroliers et 3 pour des blocs gaziers du lac Kivu à Kinshasa le 28 juillet dernier. La vente aux enchères de ces blocs pétroliers et gaziers divise les acteurs de la société civile au sujet notamment des études d'impact environnementaux et des incidents écologiques pouvant être causés par l'exploration et l'exploitation de ces ressources fossiles. Quelles sont les raisons qui justifient les rejets de ces projets par nombre d'acteurs de la société civile environnementale? Quel est le contenu du mémorandum que la dynamique Poulet a adressé au chef de l'État au sujet de cette problématique d'exploitation des hydrocarbures en RDC? Des réponses à ces questions, vous les aurez sans doute au cours de ces numéros des codes de développement. Nous débutons notre émission par deux avis d'auditeurs de Radio Okapi. Le premier auditeur soutient que le gouvernement congolais est appelé à prêter une oreille attentive aux suggestions des acteurs de la société civile environnementale dans le cadre de ces programmes. Le second intervenant affirme pour sa part que ces appels d'offres vont attirer des capitaux qui vont créer de l'emploi et stimuler le développement de la RDC. Écoutons-les.
Je dirais la prise en compte, la recommandation faite par la société civile environnementale faite par le gouvernement demeure impérieuse pour épargner la population environnante des impacts environnementaux et des incidents écologiques. Nous demandons au gouvernement, ainsi qu'il désire acheter ses blocs pétroliers et gaziers, de respecter la loi en la matière et la recommandation de la société civile. Mais c'est le moment que l'achat de ces blocs, de ces 10 blocs, profite à tous les Congolais et non aux politiciens congolais. J'ai une question à poser à l'invité. Par rapport au bloc pétrolier qui était répertorié à Kinshasa, où en est-on aujourd'hui? C'est ça un peu ma petite présentation qu'ils avaient posée à l'invité. Merci beaucoup, bonne journée.
À Kinshasa, au plateau de Bateke.
Ah ouais. J'aimerais demander à l'invité, il peut me donner la lumière, si c'est merci.
J'aimerais tout d'abord commencer par féliciter le courage du gouvernement actuel qui a essayé de faire quelque chose et puis fustiger du coup les intentions des ONG entre guillemets, les ONG d'environnement. Vous savez, ces ONG fonctionnent avec quels frais? Ils roulent pour les institutions étrangères. Aujourd'hui, nous savons comment est-ce que la pauvreté bat son plein au Congo. Vous l'avez posé une question très importante qu'il est parti dans tous les sens sans toutefois qu'il donne les réponses précises. Qu'est-ce que le gouvernement devrait faire dans le cas d'études d'impact environnemental? Il n'a pas répondu à cette question-là. Vous dites que le chef de l'État a bien déterminé que ce projet-là va respecter les normes environnementales. Il dit c'est le discours politicien. Qu'est-ce qu'ils veulent que le chef de l'État dise ou qu'est-ce qu'ils veulent que le gouvernement actuel fasse pour qu'il comprenne? il a touché un point encore important. Il dit la RDC, notre pays, c'est un pays solution. Mais Tati Mapuku, restons quand même dans la logique des choses. On dit la RDC, un pays solution. On voit lorsque on finance les fonds pour l'environnement, la RDC, qu'est-ce que nous avons gagné, quelque chose de consistant qui peut contribuer au développement de notre pays. Je peux prendre l'exemple de l'Afrique du Sud qui n'a pas un massif forestier aussi important que notre pays, mais l'Afrique du Sud a gagné beaucoup trop d'argent. Le Brésil a gagné beaucoup trop d'argent. On va nous dire avec des termes peut-être qui vont nous endormir, pays solution, mais en soi on n'a rien gagné. Nous sommes les maîtres de nos richesses. Toutes les ressources que Dieu nous a données, nous devons les exploiter pour contribuer au développement de notre pays. Ce discours-là paternaliste des pays occidentaux, voilà, on va faire ceci, on va faire... Et ils ont déjà développé leur pays. Ils ne vivent pas dans les mêmes conditions que nous vivons aujourd'hui. Si ce projet-là doit contribuer au développement de notre pays, nous, peuple, population congolaise, nous sommes derrière les gouvernements. Les ONG, là, nous savons bien qu'ils prennent les subventions, ils prennent des financements des institutions internationales pour qu'ils créent les désordres en soi, on va voir ces projets-là disparaître comme ça sous coupe des ONGD. Il ne parle pas pour les peuples congolais qui cessent de nous distraire.
Plusieurs semaines après la vente aux enchères des 30 blocs pétroliers et gaziers en RDC, les défenseurs de l'environnement continuent à demander au gouvernement de tenir compte de la vision de la société civile sur la gestion des hydrocarbures. Cela repose sur 9 conditions axées sur l'exploitation durable de ces ressources naturelles, d'après Emmanuel Moussouyou, coordonnateur de la coalition des ONG de la société civile pour le suivi des réformes et de l'action publique, Cora Pensigle.
Pour la dynamique Oulé, la question des hydrocarbures fait partie de sa vision. Dans le processus que cette plateforme a mis en place, nous sommes parvenus justement à l'élaboration de ce qu'on a appelé la vision de la société civile et des communautés locales sur le développement de la politique nationale de l'énergie, ou carrément sur le développement du secteur de l'énergie dans sa globalité. Et donc, cette vision a 9 points ou 9 exigences essentielles, et le 5e exigence parle des hydrocarbures. Qu'est-ce que nous voulons des hydrocarbures? Peut-être c'est important que je puisse parler de ça maintenant. C'est que aujourd'hui, la RDC est partie prenante de plusieurs accords, de plusieurs engagements. Elle s'est engagée, n'est-ce pas, à réduire sensiblement les émissions de gaz à effet de serre. Aujourd'hui, on parle de réduire jusqu'à 21% dans les différents secteurs, dont entre autres le secteur énergétique. Et donc, ces engagements font que le gouvernement est obligé, appelé, n'est-ce pas, à respecter cela et à promouvoir, à prendre des actions qu'il faut, de sorte à aider à aller en fait dans le sens justement de réduire et de protéger l'environnement. Et donc, ce que nous voulons, c'est que le gouvernement congolais devra adopter une vision claire par rapport au secteur des hydrocarbures sur le court, moyen et long terme. Pour dire que d'ici par exemple 2050, il faut que le gouvernement congolais puisse davantage réduire la production énergétique à partir des hydrocarbures pour voir comment est-ce que l'énergie de pour dire au gouvernement congolais qu'il n'était pas réfléchi dans ce sens d'aller à promouvoir des énergies fossiles, alors qu'en même temps on est pays solution, en même temps on a pris des engagements pour réduire sensiblement les émissions. Donc,
Maître Olivier Ndoholé, secrétaire exécutif de l'ONG Alerte Congolaise pour l'environnement et les droits humains, ACDH en sigle, basé à Goma, au Nord Kivu, s'appuie pour sa part sur l'article 155 de la Constitution qui interdit toute exploitation pétrolière dans les aires protégées de la RDC.
C'est l'article 155 qui dit expressément qu'aucune exploitation du pétrole ne peut s'effectuer, ni l'exploration, ni l'exploitation dans les aires protégées. Mais au-delà de cette loi-là, même la loi sur la conservation de la nature, à son article 25, ça interdit aussi l'exploitation du pétrole, même l'article 74. Et donc, il y a des bases juridiques fondamentales qui interdisent et qui n'ont jamais été ni révisées et qui, à ce stade, nous constatons qu'il y a des blocs pétroliers qui sont mis en vente aux enchères, mais qui viole cette législation qui existe.
Même la loi sur l'environnement, il faut parler.
Même la loi sur l'environnement, même dans le processus, Comme vous le savez, à partir de l'article 7 à 9, on pose le principe des consultations du public, la participation et l'accès à l'information d'intérêt public, ce qui n'a pas été fait. Par exemple, moi, je viens du Nord Kivu, je n'ai aucune information par rapport aux questions des blocs gaziers sur le lac Kivu. Je n'ai aucune information. Pourtant, notre République me garantit ce droit-là d'accéder à l'information et d'intérêt public. Mais aussi, si vous voyez la même loi détermine qu'il faut privilégier l'exploitation pour l'intérêt présent et futur. Mais déjà, tous les blocs sont mis à vente, tous les blocs en un coup. Qu'est-ce que nous allons léguer pour les générations futures? C'est pour cela, je pense qu'il faut interroger ce que dit la loi, il faut interroger les politiques passées et aussi s'inspirer, par exemple, de l'exemple de Moanda. Qu'est-ce que Moanda a contribué par rapport au budget de l'État? Et qu'est-ce que les paysans, en faisant l'agriculture, en faisant la pêche, qu'est-ce qu'ils ont donné, si vous voulez, au budget de l'État pour que la République puisse peser les pour et les contre, les intérêts. Mais aussi, on a dit la santé. Est-ce qu'entre la santé des paysans, la santé des Congolais et les intérêts des multinationales qui vont exploiter ce pétrole, qu'est-ce qui est de plus cher, qu'est-ce qui est d'intérêt public par rapport, si vous voulez, à la République? Ce sont des questions qu'on sait.
La RDC est appelée à respecter ses engagements envers la communauté internationale en sa qualité de pays solution en termes de lutte contre le changement climatique, renchérit Justin Mubomi, chargé de suivi des politiques publiques au Centre national d'appui au développement et à la participation populaire, CNADEP en sigle.
Quand le gouvernement est allé dire la RDC est pays solution, ça veut dire quoi? Ça veut dire que en matière de changement climatique, en matière de pollution, la RDC regorge des ressources pour pouvoir aider la planète à ne pas aller dans le sens de continuer à polluer, de continuer à influer négativement sur les changements climatiques. C'est ça ce qu'on appelle un pays solution. Maintenant, si vous prenez cette thèse-là d'être un pays solution et de l'ambition d'exploiter les hydrocarbures, les pétroles et les gaz, il n'y a pas de cohérence dans ça. Notre travail en tant que citoyen, c'est dire à notre gouvernement, écoutez, restons cohérents. Si nous nous présentons devant l'opinion internationale en disant, nous sommes pays solution, nous devons agir en tenant compte du fait que nous sommes prononcés pour être des pays solution et non pas des pays qui vont poser des problèmes. Si vous allez dans le sens de développer les hydrocarbures, vous n'êtes plus pays solution. Vous devenez les pays qui posent le problème. Vous voyez, c'est simplement ça pour interpeller un peu le gouvernement. Donc ce n'est pas nous qui interdisons, nous interpellons le gouvernement à être cohérent.
Est-ce que des consultations populaires ont été réalisées dans le cadre de ces appels d'offres visant la vente aux enchères des blocs pétroliers et gaziers de la RDC? Maître Olivier Ndoole, secrétaire exécutif de l'ONG ACDH, répond.
Merci beaucoup de la question. D'abord, moi, je précise que je viens fraîchement du Nord Kivu et je remercie Corap qui a fait que nous puissions porter la voix des communautés locales, laquelle voix, à partir de la politique du président de la République, qui voudrait se résumer par l'adage « le peuple d'abord », c'est-à-dire c'est le peuple qui parle et le président ou les institutions doivent nous écouter. C'est-à-dire, pourquoi nous sommes insurgés ou la population ne veut pas ou se réserve par rapport à cette offre qui voudrait faire croire à cette population qu'avec l'exploitation du pétrole, c'est le budget de l'État qui devra augmenter ou le social du Congolais. Et je crois que les arguments développés par les collègues sont déjà très massifs, mais je voudrais souligner par rapport au Nord Kivu, c'est que par rapport à l'aspect là de la souveraineté appartient au peuple. Le peuple dit qu'en exploitant le pétrole, si vous prenez par exemple pour le Nord Kivu, les blocs 5 et 4 commencent à partir de Beni, non seulement dans les aires protégées, à partir de Beni, c'est-à-dire tout Oicha, se trouve dans les blocs 5. Si vous prenez tout le territoire de Rutshuru, c'est le bloc 5. Vous prenez les lacs Édouard qui constituent, si vous voulez, la source alimentaire, la source économique pour toutes ces populations qui sont déjà victimes, appauvries par la guerre. Mais on veut encore une fois céder, parce que quand on va céder les blocs pétroliers à travers des ventes, il s'agit, les blocs pétroliers sont des terres, ce sont des étendues de terres. Sur ces terres-là, oui, c'est privé de cette population, leurs sources économiques, c'est-à-dire l'agriculture, on ne pourra pas faire l'agriculture, on ne pourra plus pêcher. Et ça, je pense, c'est contraire par rapport à la philosophie politique même du chef de l'État qui voudrait le peuple d'abord. Pour ce qui concerne les lois de la République, je pense que le chef de l'État lui-même a dit expressément pour son mandat, c'est le principe de l'État de droit. Et qui dit État de droit, c'est la soumission aux lois de la République. Déjà, la loi, si vous voulez, la loi sur les hydrocarbures, la loi sur les hydrocarbures interdit l'exploitation dans les aires protégées. Or, si vous prenez certains blocs, ça se trouve dans les aires protégées. Et donc, ce sont vraiment des questions sur lesquelles nous poussent non seulement à interpeller, comme les collègues l'ont dit, le gouvernement, que voilà, nous avons des lois de la République, des engagements au niveau, si vous voulez, international, qui il faudra non seulement respecter, mais aussi tenir compte de l'intérêt. Pour ce qui est du budget de l'État, si vous voulez, les moyens, je pense que...
Il y a des pays, en tout cas, qui font leurs économies sur le fait.
Radio Capi opère quelques améliorations sur sa grille de programme à partir du lundi 5 septembre 2022.
Désormais, vous suivrez, en plus de l'invité du jour en français, les invités du jour en swahili et lingala le matin et le soir. L'émission Parole aux auditeurs passera désormais à 9h05, heure de Kinshasa, avec deux rediffusions à 13h05 et 21h. Nous ferons aussi tous les jours les points sur la situation des marchés urbains en lingala.
Les magazines thématiques passeront du lundi au vendredi à 14h05 et 20h, heure de Kinshasa.
Et la rétrospective de l'actualité de la semaine interviendra tous les week-ends matins. Beaucoup de musique aussi pour vous détendre.
20 ans après sa création, Radio Capi se rapproche davantage de ses auditeurs et internautes pour mieux les servir. Radio Capi, c'est vous.
Bienvenue à ceux qui viennent de nous prendre en cours de diffusion. Vous écoutez en ce moment Écho du Développement, votre magazine de promotion des questions de l'environnement et développement durable qui s'intéresse aujourd'hui au mémorandum de la dynamique polée, un réseau des acteurs de la société civile environnementale qui n'est pas d'accord avec des appels d'offres visant la vente aux enchères des blocs pétroliers et gaziers émis par les gouvernements congolais depuis le 28 juillet dernier. Est-ce que l'expérience de la RDC en termes d'exploitation des hydrocarbures réduisantes, Apollinaire Timbangimbi, coordonnateur de l'ONG Initiative pour le développement local IDL Mwanda répond.
En fait, les appels d'offres, c'est pour dire que le gouvernement est déterminé. Il s'engage à ça. Nous disons à côté du gouvernement, non, réfléchissons autrement. Il a besoin d'argent. C'est un peu agité quand vous lisez les motivations du gouvernement. Il a besoin d'argent. Il veut répondre à des problèmes de la République démocratique du Congo. Mais on s'est dit, est-ce que c'est seulement à ce niveau-là que nous pouvons trouver de l'argent? Ça, ce sont des questions de réflexion. Et nous savons, c'est une question de gouvernance. Je crois que les amis qui sont à côté de moi peuvent me compléter. Mais l'expérience congolaise sur la production des hydrocarbures est négative. Parce que je suis dans le Congo central et je travaille sur la question des hydrocarbures à Mwanda. L'expérience est négative. Et nous nous posons la question, comment ça va se faire? Mon cher ami, nous sommes en train de prier pour que la paix continue dans notre zone de Mwanda. Nous sommes en train de prier pour que nous ne puissions pas nous séparer entre nous. Parce que les 10 millions, depuis lors, nous n'avons jamais vu ça. Et ça n'a pas des effets chez nous. Allez poser la question à l'administration du territoire, il n'a rien vu. Jusque-là, nous sommes en train de discuter entre nous. Rien n'est palpable. Mon cher frère et sœur, ce sont des questions essentielles. Vous savez que nous devons nous-mêmes aussi, notre gouvernement doit aussi nous dire combien de barils sont produits au niveau de Moanda. Combien? Publier ça parce que lui-même, l'OCC est en train de vérifier ou un monsieur du gouvernement congolais vérifie. Il est à la source. Mon cher ami, allez-y, posez la question si nous sommes capables de le faire. On vous dira. Mais je pense que jusque-là, nous ne sommes pas capables de comprendre aujourd'hui combien de barils a été produit dans Moanda. Nous ne sommes pas encore capables. Donc c'est pour vous dire que c'est un secteur où, comme je l'ai dit, un secteur de passé, un secteur qui n'est pas trop pauvre. Arrêtons, faisons autre chose.
Quelles sont les solutions alternatives qu'il faut utiliser en lieu et place de l'exploitation de ces blocs pétroliers et gaziers dont certains se trouvent dans les tourbières basées dans les forêts du bassin du Congo? Plusieurs solutions se présentent à la RDC selon Apollinaire Ntimbangimbi. Nous rappelons qu'il est le coordonnateur de l'ONG IDL Moanda.
S'insurger peut-être c'est trop parce que c'est une action du gouvernement. Mais à côté du gouvernement, réfléchir davantage sur la question des énergies fossiles. Comme l'a dit mon collègue Emmanuel, nous nous sommes engagés au niveau international, mais aussi il y a un danger qui nous guette. Et je crois que si nous ne faisons rien du point de vue environnemental, il y a risque que demain nous puissions regretter et la génération future puisse aussi regretter. Comme l'a dit Emmanuel, dans le cadre de la politique énergétique, la vision des communautés locales et de la société civile, c'est de désinvestir dans ces domaines d'énergie fossile. Pourquoi? Je crois que d'abord, nous disons que c'est un secteur qui de plus en plus est visé et d'être dépassé. Vous savez, nous ne produisons pas de véhicules. Nous ne produisons pas de véhicules, mais nous devons être attentifs de comprendre ceux qui produisent le véhicule, ils vont dans quel domaine? Ils vont dans les énergies vertes. Et nous produisons des énergies qui dérangent l'environnement. C'est pour dire que c'est un marché qui demain ne sera pas rentable. Ne sera pas rentable. Voilà pourquoi, quand nous avons fait la lettre de la dynamique polaire, nous avons dit que le secteur était dépassé. Et il est nécessaire que le gouvernement tienne compte de ça. Et c'est ça aussi la gouvernance, projeter l'avenir pour s'adapter et s'aligner. Mais nous pensons que quand nous allons dans ce secteur, nous ne nous projetons pas et nous ne nous allions pas face aux enjeux des économies mondiales, face aux questions environnementales. Nous avons dit qu'il faut arrêter parce que demain, ça va être un secteur dépassé. Et nous avons dit qu'il faut réduire les investissements parce que demain, nous ne voulons pas avoir une production qui ne rapportera absolument rien. Alors que la production des énergies fossiles détruit l'environnement et ça a des répercussions négatives dans presque tous les secteurs de la vie. Santé, agriculture et ainsi de suite.
Est-ce que l'exploitation des hydrocarbures a pu booster le vécu quotidien des communautés locales des autres pays africains tels que le Nigeria? Maître Olivier Ndoole, secrétaire exécutif de l'ONG ACDH, réagit.
Si nous faisons la comparaison, il y a le Nigeria par exemple qui a été vanté, le Nigeria, mais les Nigériens sont à Goma, ils sont en train de faire d'autres économies, d'autres investissements, parce que la vie est devenue difficile du fait que la pollution et les autres, si vous voulez, activités qui dépendent des communautés locales, les plus pauvres n'ont plus de secteur. Par rapport, par exemple, aux Congolais, je ne vois pas une entreprise congolaise ou un paysan congolais qui est à mesure d'investir dans l'exploitation du pétrole. Mais nous sommes à mesure d'investir dans l'agriculture et c'est cette agriculture, c'est par exemple le tourisme qui a contribué depuis toutes ces années au budget de l'État. C'est cette activité de pêche qui a contribué au budget de l'État. Et je pense que nous avons eu la plus grande contribution financière pour le budget de l'État, plus que même l'Afrique du Sud, après, juste après l'indépendance. Ça n'était pas fondé sur le pétrole. Et donc, nous estimons que si on investit beaucoup plus dans l'agriculture, si on fait la promotion du tourisme, parce que Virunga 2020, pendant le contexte Covid, a donné une contribution au budget de l'État 81 millions de dollars pour la contribution au budget de l'État. Je pense que nous donnons des alternatives, des conseils au gouvernement congolais.
La RDC doit investir dans l'agriculture pour développer les communautés locales, pense Justin Mubumi. Nous rappelons qu'il est le chargé de suivi des politiques publiques au CNADEP.
Dans les années 60-65, le pays ici était connu pour être producteur de cacao, producteur de coton, producteur de café. Nous étions les premiers producteurs. Allez demander aux Sénégalais, ils sont reconnus aujourd'hui au monde, ils font le budget de leur pays avec quoi? Demander aux Ivoiriens, ils font avec quoi? C'est avec les cacao. Nous ici, nous avons un pays où nous pouvons tout cultiver, tout ça, avec beaucoup de succès, parce que nous l'avons déjà fait. Si vous allez à l'Équateur, vous allez voir que tous ceux qui avaient cultivé là-bas, ils ont laissé abandonner les plantations qu'ils ont là, parce que les gens veulent de l'argent frais qu'on peut utiliser directement. On ne veut pas investir. Nous avons beaucoup d'alternatives, notamment dans l'agriculture, où nous pouvons faire développer des filières de café, développer des filières de cacao. Ce sont ces filières aujourd'hui qui font la fierté des pays qui sont aux alentours de nous. Pourquoi nous voulons des choses simples, prendre seulement l'argent pour que demain cela puisse retomber sur la tête des pauvres Congolais.
Il n'y a jamais eu l'exploitation pétrolière sans impact environnemental, conclut Emmanuel Moussouyou. Nous rappelons qu'il est le coordonnateur de la CORAP.
Je vous mets à défi.
Même s'il n'y a pas pollution zéro.
Je vous mets à défi. Il n'y a jamais eu d'exploitation pétrolière sans impact. Il n'y en aura pas. Ici, je voudrais juste prendre un exemple des États-Unis qui est un des plus grands pays producteurs ou qui exploite le pétrole. C'est que d'ici 2024, ils se sont engagés, n'est-ce pas, à abandonner l'exploitation pétrolière à ciel ouvert. C'est que nous voulons commencer à exploiter aujourd'hui sur nos terres. D'ici 2024, ils vont arrêter cette exploitation pétrolière, d'aller sur le sous-sol, dans le sous-sol, n'est-ce pas, graviter les pierres, etc., pour extraire le pétrole. D'ici 2024. D'ici 2040, dans le plan des États-Unis, c'est qu'ils vont complètement abandonner l'exploitation des hydrocarbures. Pour dire que même des grands pays, aujourd'hui, si vous êtes à Californie, il y a beaucoup de problèmes environnementaux, il y a beaucoup de problèmes de santé qui sont enregistrés. Même s'il faut revenir, parce que j'étais aux États-Unis, c'est vrai, mais je reviens en Afrique, il faut voir des pays comme le Ghana, dans la cité de Delta, dans l'état de Delta au Nigeria. Aujourd'hui, l'espérance de vie est réduite, je pense, à 41 ans, si je ne me trompe pas. Alors qu'à la normale, on est autour de 53 ans. C'est pour dire que l'exploitation, peut-être qu'il n'y a jamais eu d'exploitation pétrolière sans impact. Et rassurez-vous que si vous voyez la cartographie des blocs pétroliers, ça couvre presque l'ensemble du pays. C'est des terres et des terres et des terres de communautés qui seront ne pas exploitées. Et c'est-à-dire que cette exploitation se fera dans nos communautés. Et c'est des impacts sérieux sur la population, sur l'environnement, sur la santé, que nous allons enregistrer. Ça, c'est vraiment une chose importante. Et pour revenir à votre question, je pense que pour la dynamique pour nous estimons que le gouvernement devrait être vraiment ambitieux. Ambitieux dans ce sens que on veut être pays solution, mais en quoi est-ce qu'on sera pays solution si seulement on ne développe pas des alternatives crédibles, si on ne développe pas des alternatives sérieuses qui permettra à ce que la RDC puisse effectivement être positionnée comme ses leaders environnementales, comme ses leaders solutions par rapport aux énergies renouvelables.
C'est par ici que s'achève l'écho du développement consacré au mémorandum de la dynamique polée. C'est un réseau des acteurs de la société civile qui n'est pas d'accord avec les appels d'offres visant la vente aux enchères des blocs pétroliers et gaziers émis par le gouvernement congolais depuis le 28 juillet dernier. Tati Mapoukou était à la présentation de ce numéro. Jean-Marc Matouaki a coordonné et supervisé ces magazines et Sylvain Baogwere était à la prise de son. Retrouvons-nous pour un nouveau numéro des Codes du développement le jeudi prochain. À bientôt.